France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Alors que les députés s'apprêtent à examiner cet après-midi le budget de la Sécu, le ministre du Travail et des Solidarités a lancé ce matin les débats en même temps que les hostilités. Si on n'a pas le courage de s'attaquer à bras-le-corps à son équilibre, ça va déraper. Fin de citation. À suivre également l'ouverture à Paris du procès Lafarge, le cimentier français pour financement du terrorisme. On se rendra par ailleurs aux États-Unis. Tandis que les New-Yorkais s'apprêtent à élire leur nouveau maire, dont le favori des sondages issus de la gauche est un opposant farouche à Donald Trump. Enfin, avec notre invité aujourd'hui, Mathias Guillaumard, président de la CEDH, on fêtera un anniversaire, les 75 ans de la Convention européenne des droits de l'homme. Après avoir échoué hier à terminer l'examen du budget de l'État, c'est dans un hémicycle surchauffé que les députés s'apprêtent à entamer cet après-midi une nouvelle étape de leur marathon à l'Assemblée avec cette fois-ci l'examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Là encore, son adoption dans 8 jours est on ne peut plus incertaine. Les discussions s'annoncent inflammables, notamment autour de la suspension de la réforme des retraites, mais aussi s'agissant de mesures d'économie explosives, gel des pensions de retraite et des prestations sociales, doublement des franchises médicales, de sorte que c'est même probablement sur ce budget, en réalité, que devrait jouer le sort du gouvernement. Camille Manière, bonjour.
Bonjour Thomas.
Ce matin, chez nos confrères de France Inter, le ministre du Travail et des Solidarités, Jean-Pierre Farandou, a défendu une ligne on ne peut plus claire, je le cite, « la générosité qu'on a connue pendant des décennies est peut-être arrivée à son terme ».
Oui, des propos tenus par l'ex-patron de la SNCF pour expliquer la volonté du gouvernement, notamment de supprimer dans le budget 2026 la prime de Noël aux allocataires du RSA sans enfants, soit 150 euros pour une personne seule.
Il y a eu une époque de générosité sur toutes les politiques sociales, et tant mieux. Je pense que maintenant, il faut faire attention. Je ne suis pas sûr que notre pays ait les moyens de poursuivre ces politiques de générosité maximale. Il faut donc accepter un recentrage. Et là, c'est le débat. Quelles sont les priorités? Comment on cible? Mais il faut accepter cette idée que peut-être la générosité qu'on a connue pendant des décennies est peut-être arrivée à son terme.
Une protection sociale trop généreuse, donc. Et l'on entend bien derrière des assurés sociaux français qui auraient usé et abusé de cette générosité au point de plomber les comptes de la Sécu et des retraites. Ce n'est pourtant pas l'analyse qu'en fait l'économiste spécialisé de ces questions au CNRS et à Sciences Po, Bruno Palier.
Au cours des 10 dernières années, les déficits publics sont liés au fait qu'on assiste à une baisse des impôts qui n'est pas compensée par une baisse des recettes et que ces baisses des prélèvements obligatoires effectivement assèchent les recettes et non pas une explosion des dépenses sociales. Elles n'ont pas explosé ni une ultra-générosité de notre système.
Et ça s'applique d'autant plus, poursuit Bruno Palier, à la sécurité sociale et aux dépenses de santé en débat, vous l'avez dit Thomas, ces jours-ci à l'Assemblée.
Il est toujours étonnant d'entendre un ministre accuser les patients d'être la cause des dépenses de santé. C'est d'abord accuser les patients d'être malades, ce qui est tout à fait choquant, et d'autre part, c'est oublier le fait que les prescriptions ne sont pas écrites par les patients, mais elles sont écrites par les médecins, par le système de santé, qui, lui, a des incitations à prescrire plus. Dans un système où la tarification à l'activité incite les hôpitaux à multiplier les actes pour avoir plus de budget.
Voilà donc un sujet de fond à débattre dans le cadre des discussions sur le PLFSS. Elles doivent durer en principe jusqu'au 12 novembre à l'Assemblée avant d'aller se dérouler au Sénat.
Merci Camille Manière. Alors les débats à l'Assemblée sur le budget de la Sécu ne débuteront qu'à partir de 17h. En revanche, dès ce matin, s'est ouverte la conférence travail et retraite, une réunion entre partenaires sociaux, à l'exception notable de la CGT, censée relancer le dialogue social et rétablir la confiance après l'échec patent du conclave avant l'été.
Pour la première fois, une entreprise française va être jugée pour financement du terrorisme.
C'est totalement inédit. En l'occurrence, le groupe Lafarge et 8 de ses anciens responsables sont en effet soupçonné d'avoir payé des groupes djihadistes, dont le groupe État islamique en Syrie jusqu'en 2014, dans le seul but d'y maintenir l'activité d'une cimenterie alors que le pays était à feu et à sang. Florence Thion, bonjour.
Bonjour.
Quel sera l'enjeu de ce procès donc pour le cimentier et ses anciens responsables?
Alors, enjeu pénal, bien sûr. Tout d'abord, les prévenus encourent jusqu'à 10 ans de prison pour financement du terrorisme, 5 ans pour la deuxième infraction retenue, l'infraction douanière. douanières, car après les anciens salariés syriens, Bercy avait déposé plainte pour non-respect de sanctions financières internationales, ce qui pourrait valoir une amende de plusieurs millions à la Farge en tant que personne morale, jusqu'à 10 fois le montant de la somme retenue par le parquet national antiterroriste. Tout compte fait, cela fait une amende qui pourrait frôler les 50 millions, à mettre toutefois en regard avec un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros annuels, c'était celui de la Farge avant sa fusion avec le Suisse Holcim. En réalité, l'enjeu le plus important reste sans doute, si la culpabilité est démontrée, cette étiquette infamante de financement du terrorisme dont les anciens responsables tentent de se défausser avant l'ouverture de l'audience. Bruno Lafont, l'ancien PDG, affirme qu'il n'était pas au courant de ces arrangements financiers. L'un des anciens directeurs de l'usine syrienne, lui, parle d'une économie de raquettes de la part des groupes armés qui contrôlaient les voies d'accès et les checkpoints par lesquels devaient passer les camions de matières premières et les salariés syriens restant sur le site. Ils étaient plus de 200. Les employés d'origine étrangères, eux, avaient tous été rapatriés. Mais un autre élément risque de peser dans cette audience, c'est le plaidé coupable conclu en 2022 avec la justice américaine. La Farge avait accepté de payer 778 millions de dollars pour échapper à un procès. Et dans cet accord, le groupe a désormais l'interdiction de contredire les éléments qu'il a reconnus et donc de nier sa responsabilité.
Merci Florence Sturm. Je précise que le procès au tribunal correctionnel de Paris est prévu pour durer jusqu'au 16 décembre et j'ajoute qu'une autre partie du dossier est toujours à l'instruction puisque la Farge en tant que personne morale reste mise en examen pour complicité de crimes contre l'humanité.
Midi et 36 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Zoran Mamdani sera-t-il le nouveau visage de la résistance face à un Donald Trump toujours plus puissant lequel n'a pas hésité déjà à déployer l'armée dans plusieurs bastions démocrate des États-Unis. C'est aujourd'hui que les New-Yorkais sont appelés à se choisir un nouveau maire. Or, cet ancien conseiller en logement, un socialiste revendiqué de 34 ans, musulman d'origine indienne, né en Ouganda, inconnu du grand public il y a encore à peine un an, fait désormais figure de grand favori face à son principal adversaire, Andrew Cuomo, l'ex-gouverneur de l'État, un ancien démocrate devenu indépendant, soutenu aujourd'hui par l'administration Trump. Alors, nul doute que dans la ville la plus peuplée du pays, à la fois capitale économique et financière, sa victoire inaugurerait sans doute un combat homérique avec le milliardaire républicain tant Zoran Mamdani incarne au fond tout ce que l'Amérique trumpiste déteste aujourd'hui, comme a pu le constater notre envoyé spécial Timur Özturk dans la petite commune de Dawsonville, 4000 habitants dans l'état de Géorgie. Reportage.
Une petite église, deux stations-service, une poignée de commerce et 80% de vote pour Donald Trump. Dawsonville semble bien loin de la politique new-yorkaise. Pourtant, même ici, Chris a entendu parler de Zoran Mamdani. Socialiste n'est pas un compliment dans la bouche de ce républicain qui le trouve aussi trop jeune. Chris redoute que Zoran Mamdani prenne de plus en plus de place sur la scène nationale.
Well, he's going to want more. It's not him, it's the Democratic Party. The Democrats needed a new face. That's what they got, and they're pushing him.
Il y a un an, Craven, lui aussi, a voté pour Donald Trump. Satisfait du président, même s'il aimerait le voir déclassifier des documents secrets sur l'assassinat de Kennedy ou encore les ovnis. Quand on lui parle de Zoran Mamdani, le premier mot qui lui vient à l'esprit, c'est musulman. En raison de sa foi chrétienne, dit-il, il ne pourra jamais envisager de voter pour lui s'il devait se présenter un jour à la présidentielle.
Voilà, un reportage donc à Dawsonville signé Timur Özturk. Il avait été vice-président des États-Unis de 2001 à 2009 sous George W. Bush. Dick Cheney, connu pour son rôle majeur donc dans la guerre en Irak et la politique antiterroriste après le 11 septembre 2001, est mort. Ce matin, il était âgé de 84 ans. Une semaine après que des paramilitaires soudanais se sont emparés du dernier verrou stratégique qui échappait à leur contrôle au Darfour, les témoignages se multiplient sur les exécutions sauvages, les pillages, les viols, les massacres de masse perpétrés contre des civils dans cette vaste région de l'ouest du pays. Un véritable supplice alimenté par des rivalités ethniques depuis plus de 2 ans, mais aussi, disons, un certain silence coupable des opinions publiques occidentales. Alors aujourd'hui même, Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exhorté les parties au conflit à venir à la table des négociations pour mettre fin à ce cauchemar de violence. Et de fait, ce matin, Étienne Monin, les autorités pro-armées ont confirmé étudier une proposition de trêve portée par les États-Unis.
Ça n'est pas la première tentative, mais depuis des mois, un groupe de médiation tente de stopper cette guerre. On l'appelle le Quartet, il est dirigé par les États-Unis, composé de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Un plan de paix a déjà été présenté mi-septembre à Washington. Il n'a pas abouti. La dernière version propose de faire entrer de l'aide humanitaire avec la mise sur pied d'un processus politique. Mais plusieurs tentatives de pourparlers ont déjà échoué et certains acteurs sont soupçonnés d'avoir des intérêts dans cette guerre, parmi lesquels les Émirats Arabes Unis, qui sont accusés d'armer les milices, qui sont aujourd'hui soupçonnés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, d'après les premiers éléments recueillis par la Cour pénale internationale autour de la ville d'El-Fasher. La guerre a été relancée il y a maintenant 2 ans et demi. Elle met aux prises l'armée du général Al-Burhan et les milices des forces de soutien rapide. Ces milices ont assiégé El-Fasher, la dernière ville du Darfour, il y a maintenant 18 mois. Elle est tombée il y a presque 10 jours. La situation humanitaire est depuis devenue chaotique. Les vidéos et les témoignages d'exécution se sont multipliés dans la ville. La situation de famine a été classée catastrophique par l'ONU et la ligne de front semble se déplacer à nouveau.
En dépit des appels lancés à la Russie pour qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine, l'armée du Kremlin poursuit ses attaques.
Des assauts terrestres sur le front Est, en particulier dans le bassin industriel et minier du Donbass, en même tant qu'une intense campagne de bombardement ciblée contre le secteur énergétique afin de plonger son voisin dans le noir et le froid hivernal. Alors évidemment, face à cette actualité sans cesse déchirante, il semble chaque jour plus indispensable encore de rappeler les idéaux de paix et de justice qui devraient guider la bonne marche du monde, ce que fait en l'occurrence la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle célèbre aujourd'hui ses 75 ans. Ce texte signé à Rome, c'était le 4 novembre 1950, au lendemain donc de la Seconde Guerre mondiale, est aujourd'hui ratifié par 46 pays membres du Conseil de l'Europe qui doivent garantir donc les droits comme les libertés fondamentales de toute personne, européenne ou non d'ailleurs, se trouvant sous leur juridiction. Et l'une des forces de cette convention, eh bien, c'est d'être protégé par un organe judiciaire qu'on appelle la Cour européenne des droits de l'homme. Eh bien, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir son président, justement, Mathias Guillaumard, président donc de la CEDH en direct de Strasbourg, grâce à nos confrères de Ici Alsace. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour monsieur.
Cette convention a donc, je le disais, 75 ans jour pour jour. Peut-être pour commencer, pouvez-vous déjà nous rappeler dans quel contexte donc ce texte a-t-il été élaboré et surtout quel rôle a-t-il joué dans la définition du projet politique européen ?
Lorsque la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, laissant derrière elle les horreurs que le continent européen avait engendrées, ceux qui voulaient reconstruire un projet politique l'ont fait en utilisant la force du droit. Il y a d'abord eu en 1949 la création du Conseil de l'Europe. C'est une initiative qui doit beaucoup au Royaume-Uni, notamment Winston Churchill, et à la France, mais aussi aux pays qui avaient été leurs adversaires pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et très vite, ce projet politique qui a cherché à reconstruire un espace de paix et de justice, comme vous venez de le dire, sur le fondement de la démocratie libérale, s'est doté d'un instrument juridique. En 1950, une année après, 12 États ont signé cette convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est d'une certaine manière la déclinaison à l'échelle européenne de la déclaration universelle qui avait été adoptée sous l'égide de l'ONU 2 ans auparavant, à Paris, et qui devait beaucoup à René Cassin.
Et si l'on en vient à la situation actuelle, cette fois-ci, diriez-vous que nous sommes confrontés à une crise de modèle justement sur lequel s'était fondée donc la signature de cette convention ?
Il y a aujourd'hui, dans le contexte que nous traversons, beaucoup de similitudes avec la situation de l'entre-deux-guerres. Celle que précisément avaient vécu les fondateurs du système. Et ils avaient vécu cette situation faite de menaces externes, de crises internes, de polarisation des sociétés, de montée du populisme. Et ils avaient vu ce à quoi ça avait abouti. Au nazisme, au fascisme, au totalitarisme communiste, à la Deuxième Guerre mondiale, à l'horreur de la Shoah, et ils ont d'une certaine manière proclamé qu'ils voulaient éviter, je vais citer Pierre-Henri Tedjen, qui était l'un des rédacteurs de la Convention il y a 75 ans, le retour de l'épouvante. Et donc, ils nous ont fait la promesse du plus jamais ça. Et cette promesse, ils nous l'ont faite en nous donnant un instrument qui est ce traité de l'humanisme juridique et qui passe par l'idée très simple et très forte à la fois qu'en protégeant les droits fondamentaux des individus, on protège la démocratie.
Justement, on a tendance à voir aujourd'hui de plus en plus de voix s'élever pour nous expliquer que la défense des principes de droit exercés par les juges serait une entrave à la démocratie parce qu'elle limiterait l'expression de la volonté populaire par le vote. Est-ce que vous êtes surpris par ce type de discours ?
Ce type de discours a toujours existé. Je peux aussi remonter l'entre-deux-guerres une fois encore. C'est vrai que dans le contexte actuel, il y a des mises en cause de valeurs, des mises en cause de règles, des mises en cause de systèmes issus de la Deuxième Guerre mondiale, de l'après-Deuxième Guerre mondiale, et qui reposent sur l'idée d'une régulation par le droit. Je dirais même à l'échelle de la Convention européenne, une régulation par les droits. Et ces idées-là sont contestées aujourd'hui comme s'il y avait une forme d'érosion, de l'adhésion à l'humanisme, aux droits humains, et à l'idée que dans une démocratie, la séparation des pouvoirs repose sur leur complémentarité et sur leur équilibre, et que parmi ces pouvoirs, il y a celui des juges, celui confié aux juges, d'être d'une certaine manière le gardien de ses droits fondamentaux.
Et est-ce que le contexte actuel, là encore, impose aux juridictions davantage d'efforts dans leur façon de communiquer, peut-être ?
Absolument. Je crois que nous avons ce devoir d'être visibles pour rendre notre rôle accessible d'une certaine manière. La Convention est faite pour la vie concrète des gens. Les droits qui y sont protégés intéressent tout le monde. C'est le droit à la vie privée, c'est la protection contre la rétention arbitraire, c'est la liberté d'expression, c'est le droit à l'éducation. Ça touche à la vie de tout le monde et à la vie de tous les jours. Et donc nous sommes saisis de cas très concrets. Et depuis 1959, la Cour a été créée en 1959, nous avons réglé plus d'un million d'affaires. Et ces affaires ont conduit la Cour à son tour et à sa place, car nous sommes dans le cadre d'un système qui repose sur la responsabilité partagée, c'est-à-dire les États membres et les juges internes, et puis nous, à titre subsidiaire, à traiter de questions très concrètes. L'abolition des châtiments corporels à l'école, la dépénalisation des relations homosexuelles entre adultes, la protection des femmes contre les violences conjugales, l'intérêt supérieur de l'enfant, la possibilité...
Et on va s'intéresser là, parce que on n'aura pas malheureusement le temps de citer tous ces cas-là. Merci Mathias Guillaumard, donc président de la Cour européenne des droits de l'homme, d'avoir répondu à notre invitation en direct de Strasbourg. Merci également à Louise Guérin pour la préparation, ainsi qu'à nos confrères de Ici Alsace.
L'Europe toujours en quête d'un compromis de dernière minute avant la COP sur le climat.
Oui, à quelques jours, la conférence de l'ONU, les 27 vont à nouveau tenter d'arracher un accord aujourd'hui à Bruxelles sur la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre entre 2035 et 2040, sauf que les ministres de l'Environnement doivent s'accorder à l'unanimité, avec à la clé des transformations majeures pour l'industrie, mais aussi le quotidien de leur population, le tout au milieu d'un vieux continent qui, ces derniers mois, aura assez largement relégué ces questions climatiques derrière les enjeux de défense et de compétitivité. Urgence climatique d'un côté, donc, et crise des inégalités de l'autre dans ce nouveau monde dans lequel le puissant enfreint les règles en toute impunité. Les inégalités de revenus constitue aujourd'hui une crise mondiale de nature à menacer directement la démocratie et la cohésion sociale. Myriam Roch-Massarin, bonjour.
Bonjour.
C'est ce qui ressort d'un rapport donc publié ce matin et dirigé par le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz.
En près de 25 ans, les inégalités de patrimoine se sont creusées de manière abyssale entre les habitants de la planète. Selon l'étude, 1% des plus riches accaparent plus de 40% des nouvelles richesses mondiales. À l'inverse, les 50% les plus pauvres se partagent 1% à peine de ses richesses. Concrètement, dans le monde aujourd'hui, alors qu'un habitant sur quatre saute régulièrement un repas, eh bien, la fortune accumulée des milliardaires atteint un niveau encore jamais vu auparavant. Les inégalités de revenus aussi restent très élevées, même si, le rapport le souligne, elles ont légèrement diminué depuis 2000, grâce notamment au développement économique de la Chine.
Merci Myriam Roch-Massarin, et nous allons tout de suite au restaurant Drouan pour l'annonce du prix Goncourt.
On va s'échelonner de façon tard, descend peut-être une marche, à côté de François, bien à côté de Pierre. Non, descend encore une marche.
Pierre Ropert, vous êtes sur place, donc l'annonce devrait arriver de manière imminente. On rappelle peut-être les quatre auteurs, autrices en lice.
Est-ce donc, que vous avez tout le monde ?
Natacha Apana avec La nuit au cœur, Emmanuel Carrère. Colcause, Laurent Mauvignier avec La maison vide, et puis la Belge Caroline Lamarche pour Le bel obscur.
Merci d'être, comme d'habitude, aussi nombreuses et nombreux. Vous m'entendez là ? Il y en a un seul qui ne m'entend pas, alors il fait signe. Bon, bonjour à toutes et à tous, merci d'être dans ce bel établissement de Rouen. Comme d'habitude, vous êtes nombreuses et nombreuses. Et nous avons le plaisir donc aujourd'hui de vous accueillir pour l'annonce du 123e prix Goncourt qui a été attribué au premier tour de scrutin à Laurent Mauvignier pour La maison vide. Qui a obtenu 6 voix, Caroline Lamarche obtenant 4 voix pour Le bel obscur. Voilà, la messe est dite. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.
Voilà, la messe est dite et nous retrouvons donc Pierre Ropert en direct du restaurant Drouan à Paris. Vous nous entendez, Pierre ?
Oui, bonjour.
C'est donc avec La maison vide, son 13e roman publié aux éditions de Minuit, que Laurent Mauvignier vient de remporter à l'instant le prix Goncourt.
Oui, la maison vide pour l'écrivain, c'est cet héritage, cette demeure que ses ancêtres ont quitté et dans laquelle l'auteur retourne à son tour. Il va se confronter non pas à des souvenirs, mais bien à leur vide, à leur absence, qu'il va s'efforcer de combler. C'est avec Marie-Ernestine que tout commence, écrit ainsi Laurent Mauvignier. Pour le lecteur, c'est pourtant avec quelques photos que tout débute, non pas celle de Marie-Ernestine, l'arrière-grand-mère de Mauvignier, mais bien de Marguerite, sa grand-mère, dont le visage a disparu des albums de famille découpés au ciseau. Autour de ce personnage se dresse